La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Il y a deux semaines, nous vous avions fait un panorama du trombone, puisque ça nous avait été demandé par un jeune auditeur. Et d'autres gens nous disent, mais le trombone américain, c'est bien gentil, mais vous n'avez passé qu'un seul français. Et on voudrait bien un panorama du trombone de jazz français. Eh bien, vous allez être exaucés.
Oui, à notre surprise, finalement. On savait qu'il y en avait beaucoup, mais quand même, à ce point-là, ça nous a étonnés.
Et nous allons parcourir chronologiquement ce trombone de jazz français en 12 épisodes et en 12 personnages, souvent hauts en couleur, et dont il faut bien souligner qu'ils sont aussi bien autodidactes que non autodidactes. Il y a des deux.
C'est totalement mélangé.
Et qu'il y a également des gens qui sont restés amateurs toute leur vie, tout en faisant un très beau parcours. Et nous commençons par les deux pionniers de l'avant-guerre, deux figures qui s'appelaient Léon Vauchamp pour l'un et Guy Paquinet pour l'autre. On va commencer par Léon Vauchamp, dont le parcours vaut son pesant de caramel.
Franchement, sa vie, c'est un film.
Ah oui, c'est un film.
Il est le fils d'un certain Noël Bonaventure Arnaud. Mais voilà, il portera jamais ce nom-là. Son père est trombone de métier à l'Opéra de Lyon. C'est donc un cadre du trombone. Hein. Et puis, il y a la guerre.
De 14.
De 14, naturellement. Et Léon Vauchamp, il est né en 1904, donc il a juste 10 ans, au moment où la guerre commence. Alors son père fait 3 ans de guerre, hein, et il apprend que sa seconde femme est en train de le tromper avec un beau sous-officier. Et il apprend également qu'elle a l'intention d'embarquer son fils pour vivre avec ce sous-officier. Il est tellement furieux qu'il décide d'aller kidnapper son fils, de déserter, parce qu'il est toujours militaire.
C'est qu'on est en 17, hein, ça rigole pas.
Et oui, et de ce fait, il change de nom et il devient Monsieur Vauchamp.
Il était Arnaud, il devient Vauchamp, il a récupéré son fils et il quitte Lyon pour Paris. Et chose étonnante, il ne sera jamais réidentifié. Ce type va passer toute sa vie sous un faux nom.
Et donc le jeune Léo, il s'appelle Léo Vauchamp.
Il retrouvera son nom en étant naturalisé américain.
Et donc il va mener une sorte de vie totalement transbahutée. Son père, qui ne sait qu'être musicien, va le mener. Et comme Léo présente des capacités formidable en tant que musicien, ces deux-là, ils vont vivre de leur musique. C'est un enfant de la balle. Hein.
Ah, ça c'est sûr. Il est professionnel à 13 ans. Il est timbalier, il est violoncelliste, il est batteur. On ne va pas tout vous raconter parce qu'on y passerait 4 émissions. Toujours est-il qu'un beau matin, il atterrit au Bœuf sur le Toit, là où les compositeurs classiques viennent écouter le jazz, les premiers jazz, et commencent à en tirer quelques leçons. Et en particulier que les gens qui jouent cette musique-là ont des techniques très spéciales. Et à cette époque-là, Maurice Ravel, qui est en train d'écrire son fameux boléro, bute sur des problèmes techniques dans la partie de trombone. Alors, voyant ce jeune prodige au Bœuf sur le Toit, il le convoque chez lui et c'est Léo Vauchamp qui va mettre au point avec Ravel cette partie de trombone qui est un des tubes de la musique, hein, qui est une des choses les plus jouées qui soit. Et jusqu'à une époque assez récente, pour enregistrer ce morceau, on ne faisait pas appel à des musiciens classiques.
Les trombones classiques, quand ils ont vu le projet de partition, ils ont dit « Oh là là, non, c'est impossible, on peut pas faire ça !»
Et la même chose s'est d'ailleurs passée plus tard en Amérique, où un homme Mif Maul a enregistré le boléro de Ravel que les classiques, à l'époque, ne pouvaient pas suivre. Chose qui a changé depuis, d'ailleurs. Sachez que Léo Vauchamp est parti pour l'Amérique en tournée avec un orchestre avant la guerre, qu'il y est resté, qu'il est devenu l'orchestrateur attitré de la MGM, qu'on lui doit la musique de la plupart des films musicaux de Judy Garland, entre autres, qu'il a donc vécu à Beverly Hills tout à fait tranquillement. Il a très très peu enregistré. On a donc mis bout à bout quelques solos de l'époque. Vous en avez un petit échantillon de la sorte. Ouvrez les oreilles.
Thank you.
Voilà, c'était Léon Vauchamp, dont nous avons personnellement un excellent souvenir parce que nous l'avons rencontré. Il est revenu en France voir quelques amis et par hasard, nous étions au bon endroit au bon moment et nous en gardons donc une certaine image d'un petit bonhomme au regard très malicieux. Alors son compère de l'époque était Guy Paquinet. Et Guy Paquinet, c'est exactement le contraire.
Et oui, lui, il est passé par des stades totalement habituels d'un petit musicien qui commence. C'est vrai que sa famille était tout à fait une famille de musiciens. Il commence le violon. Ça, qui n'a pas commencé le violon, c'est à se demander. Hein.
Qui bon. Jette la première pierre.
Et puis, finalement, bon, ben, il se plaît bien, mais il travaille comme ça. Et puis, quand même, un jour, il se dit, ça vaudrait le coup de bien jouer. Et il s'y jette. Il s'y jette. Et en 1920, c'est-à-dire qu'il a...
19 ans.
Là, il est engagé. Parce qu'il joue tellement bien du violon qu'il est engagé dans des endroits qui sont les endroits où on s'amuse. Et qu'est-ce qu'on lui demande de jouer ? Des polkas, des scottish et des valses qui étaient les danses de l'époque.
Oui, qui sont d'ailleurs toujours les nôtres.
Et oui, et les joue au violon très bien. Et puis, il est engagé pour aller jouer à Robinson. À Robinson, c'est là où les Parisiens allait passer le dimanche au bord de l'eau avec les gens qui canotaient et tout ça. Et donc, il y avait un monde fou là-dedans. Et c'est là qu'il va faire ses premières armes au trombone. Il découvre le trombone à ce moment-là.
Et à partir de là, il va découvrir le jazz très rapidement et il va orienter sa vie vers le jazz tout en ayant tout ce bagage et cette mentalité même d'ailleurs classique. Tu sais que c'est un type qui a réussi des concours importants qui pouvaient le mener vers une très grande carrière classique, mais non, il n'avait pas envie. Et donc il a préféré rester dans le jazz et là nous allons l'entendre avec un orchestre formé au début des années 30 par un type assez bizarre qui s'appelait ou qui se faisait appeler Grégor. Et l'orchestre s'appelait Grégor et ses Grégoriens.
Oh, ça fait quand même... Hein, ça en jette, ça.
Oui, mais vous pouvez aller sur YouTube voir Grégor et ses Grégoriens parce qu'ils ont été filmés. Et c'était une sorte de big band, conduit par Grégor, qui était une sorte de vibrillon. Et là-dedans, il y avait deux trombones, assis côte à côte, qui étaient Léo Vauchamp et Guy Paquinet. Et dans ce qu'on va entendre maintenant, qui est un Tiger Rag, publié à l'époque sous le nom de Rugissement du Tigre, nous allons passer le disque en entier, et vous pourrez entendre vers la fin de l'enregistrement, après un solo de piano que nous trouverons un tantinet flageolant, une très belle intervention de Guy Paquinet au trombone, qui illustre d'ailleurs, comme pour Vauchamp, ses préférences vers le jeu et le phrasé des Noirs américains qui commençaient à être connus par le disque en France à cette époque. Thank you. Voilà pour les deux pionniers, ceux qui étaient nés avant 14, et maintenant, voici ceux qui sont nés pendant les années 20. Et nous devons vous dire qu'à partir de ce moment de l'émission, c'est tous des gens qu'on a connus, et souvent très très bien connus, et dont on a suivi le parcours, et dont on pourrait raconter des tas d'histoires. Mais le temps nous est compté, soyons efficaces, voici, né en 1926, Benny Vasseur.
Celui-là, bien sûr, il a aussi un père qui est un musicien, qui jouait de la flûte. Il commence, comme tout enfant un peu précoce en musique, à 5 ans, solfège, piano classique et tralala. Quand même, il décroche un premier prix de piano en 44, c'est-à-dire qu'il a
18 ans.
Il commence à entendre une chose qui inonde un peu la France, ce sont ce qu'on appelle les V-disques.
Ah, on en a parlé, ça. C'était les disques publiés par l'armée américaine pour soutenir le moral des troupes. Les V comme victoire, hein, V-disques.
Bien sûr.
Et comme l'huile s'appelait V-dol, hein, je signale, la fameuse huile V-dol, c'est la même origine. On la voit encore sur les murs de certaines maisons. Et ces V-disques, évidemment, il y avait tout un secteur jazz qui était extrêmement éloquent et qui faisait l'objet de trafic intense entre le PX et l'extérieur du PX.
Il devient fou de jazz. Et il veut jouer d'un instrument emblématique. Bien sûr, on peut jouer du piano jazz. Mais là, tout d'un coup, il flash sur le trombone. Et il a un frère, René, qui va l'aider à prendre le trombone techniquement.
Et il faut bien dire que Benny Vasseur est extrêmement doué pour le trombone. Et non seulement il est doué, mais il a de la chance. Mais il a de la chance aussi parce que c'est un bosseur. Vasseur, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Eh bien, il a 80 ans bien sonné. Il travaille encore son instrument 3 heures par jour. Évidemment, quand on le rencontre dans un bœuf au petit journal ou ailleurs, eh bien, il joue. Et cette chance l'a fait rencontrer une foultitude de gens. Parce que quand on avait besoin d'un trombone pour accompagner Pierre, Paul, Jacques ou Benoît, américain, eh bien, ah, mais il y a Vasseur, il sait tout faire.
Alors, on va vous en citer quelques-uns, mais vous allez voir. Coleman Hawkins, Charlie Parker, Charles Trenet.
Il a fait beaucoup de variétés, Benny Vasseur, il était partout.
Aimé Barelli, le trompettiste, Django Reinhardt, Sidney Bechet, rendez-vous compte, Dizzy Gillespie, Claude Luther, hein, franchement.
Non, il a absolument tout fait, et en plus, c'était un requin de studio. Enfin, bref, nous nous sommes arrêtés à un enregistrement, resté très longtemps inédit en réédition, fait par le trompette Roy Eldridge, qui chante en français, quelque chose de très amusant, parce qu'il a fait quelques disques français comme ça, Roy Eldridge, où il a bien rigolé. Et là-dedans, eh bien, Benny Vasseur l'accompagne sur le vocal et prend après un superbe solo. Ça donne une très bonne idée de la flexibilité du son et de la dextérité de Benny Vasseur. Et ça s'appelle...
Tu disais que tu m'aimais.
Oui, mais c'est Roy Eldridge qui le dit.
Tu disais que tu m'aimais.
Chérie, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Écoute, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Et je t'ai donné mon fric, mais tu ne m'as pas aimé. Tu disais que tu m'aimais, tu croyais que j'étais fou. Zéro piste d'isobie, et t'es remis sur toi. Mon chou, très fâché avec vous. J'en ai marre de donner mon fric à mon amour aussi, oui. Thank you.
Maintenant, on va parler de quelqu'un qui est très cher à notre cœur. C'est l'ancien trombone du Moustier Stompers et qui est mort il y a 2 ans. Alors lui, c'était pas une famille de musiciens du tout.
Ah non, c'est le contraire de ceux qui précèdent.
Et c'est assez étonnant parce que et lui et sa sœur, ils ont été des musiciens remarquables. Elle dans le trad et lui dans le jazz.
C'était des autodidactes l'un comme l'autre. Henri Perrier au trombone, c'est un autodidacte absolu, à tel point qu'il ne savait même pas du tout, mais quand je dis du tout, c'est pas du tout vraiment, lire une note de musique.
Et ça ne l'a jamais empêché.
Non.
De jouer merveilleusement. Il avait une oreille totalement remarquable. Il suffisait qu'on lui chante le morceau une ou deux fois ou que quelqu'un le lui joue. Ça y est, il avait le squelette du morceau et il savait quoi en faire.
Et en plus, il avait toutes les qualités de jazz qu'on peut avoir. Il jouait vraiment, comme on dit chez les jazzmen, il jouait black. Il jouait le blues merveilleusement bien. D'ailleurs, on va s'en rendre compte tout de suite. Et je me rappelle la première fois que j'ai joué avec lui, après avoir essuyé beaucoup de trombones médiocres dans les improvisations collectives, parce que c'est assez rare d'en trouver un bon. Je me suis retrouvé soudain avec ce petit bonhomme à ma droite, et dans mon oreille droite, il y avait un trombone intelligent. Alors ça, c'était quelque chose de rare, de précieux, et que donc j'ai conservé Henri Perrier, je l'ai eu dans mon oreille droite pendant 25 ans.
Oui. Ce que tu dis est très important parce qu'un trombone, c'est souvent un instrument d'accompagnement.
Ah oui, de soutien. Et les trombones se prennent pour des trompettes et se collent aux trompettistes parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont là.
Et non seulement il était bon en collectif, c'est-à-dire qu'il écoutait absolument pour soutenir. Il avait cette modestie de ne pas se mettre en avant.
Eh bien, nous allons maintenant profiter du talent d'accompagnateur de Henri Perrier. Nous avons enregistré pas mal de disques avec une chanteuse américaine qui s'appelait Carol Lee et qui chantait très bien le blues. Et nous avons confié un jour à Henri Perrier le soin de l'accompagner à l'ancienne, c'est-à-dire seul souffleur, pour un de ses blues qui s'appelle Gulf Coast Blues. Gulf Coast Blues, c'est l'histoire d'une fille qui attend des nouvelles par le facteur et le facteur n'en apporte jamais. C'est vraiment un blues.
My man has gone away. He has quit me cold for another gal, I'm told. I tried to treat him kind. He said he would be mine. That man I hate to lose. That's why I've got the blues. The man that I love, he has gone and left this town. The
Et voici maintenant un autre autodidacte, un peu plus jeune que les deux précédents, puisque lui, il était né en 1929. Il s'agit de...
Claude Gousset. Lui, il a tout de suite été intéressé par le style jazz. Alors, il va commencer par la clarinette, puis après le banjo, et puis après le cornet. Et puis, on lui propose de jouer du trombone dans un groupe amateur. Hop, il y va. Et là, il a trouvé son instrument.
C'est une histoire qui est très commune. Souvent, des gens qui aimaient écouter la musique décidaient de passer à l'acte. Alors, toi, toujours assis, ça. C'est comme ça qu'Henri Perrier a pris le trombone, parce qu'il n'y avait plus que ça qui était disponible. Et c'est la même raison qui a transformé Claude Gousset en trombone. Mais lui, il est devenu professionnel et il a fait presque toute sa carrière avec Claude Bolling. Jamais très loin de Claude Bolling. Et c'est là que nous allons le retrouver avec Claude Bolling dans une séance d'enregistrement que nous avions organisée avec des gens de chez Duke Ellington. Et là, sur un arrangement de Claude Bolling, l'idée a été d'opposer les musiciens... genre le même instrument, dans une sorte de dialogue un peu compétitif. Alors donc, il y a Paul Gonzalves et Gérard Badini au saxo ténor, il y a Pierre Dutour et Cat Anderson à la trompette, il y a Buster Cooper et Claude Gousset qui se partagent le trombone. Et je me souviens de cette séance où Claude Gousset et Buster Cooper s'étaient vraiment trouvés extrêmement complices alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Le morceau, arrangement de Claude Bolling, s'appelle...
The Twins.
Naturellement. Celui que nous allons entendre maintenant, c'était une sorte d'apôtre. Il s'appelait Raymond Fonsec et il a été le fondateur en particulier du Jazz Club de France, lequel existe toujours, heureusement d'ailleurs, et édite par exemple un annuaire de l'ensemble des musiciens traditionnels français. Et c'est comme ça que je peux vous dire qu'on est largement plus de 1000 hein, quand même. Raymond Fonsec a été l'auteur de tout un tas d'initiatives tournées vers la formation des jeunes musiciens. D'ailleurs, à l'époque, nous en avons largement profité. Il organisait vraiment des séances où on travaillait, où on apprenait à jouer ensemble, où on apprenait beaucoup de choses. Et il a fait ça toute sa vie. Il a été aussi l'inventeur d'un piano bizarre qui joue exactement juste. Vous ne saviez pas que c'était faux un piano ? Il n'y a que le violon qui sonne juste, n'est-ce pas, madame ?
N'est-ce pas ?
Parmi les initiatives que Fonsec a prises, il y a eu celle d'un orchestre où il y avait pas mal de jeunes gens qui ont fait un gentil parcours depuis. Bizarrement, Raymond Fonsec appelait cet orchestre le vieux truc. Bon, peut-être parce qu'il pensait jouer de la musique à l'ancienne, je sais pas bien. Remarquez, on allait même à la maison, pas loin d'ici, il y a un orchestre qui s'appelle bien les vieilles poux. Alors, hein. Cet orchestre-là, bien, il va maintenant nous jouer Crazy Rhythm. Et dans ce morceau-là, on pourra apprécier, justement, le talent de tromboniste de Raymond Fonsec, qui était, alors lui, un vrai de vrai pro. Hein. Il est passé partout, y compris au Moulin Rouge, aux Folies Bergères, au Casino de Paris, mais son jardin, c'était le jazz.
Thank you.
allez entendre maintenant, il est un peu plus jeune que les autres puisqu'il est né en 1933. Et celui-là, sa vie va être absolument ponctuée par deux aspects musicaux, le jazz et la variété. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il commence par jouer dans l'orchestre de Maxime Sori, donc il fait du jazz, il rencontre Sidney Bechet, Jimmy Rushing, Stuff Smith. Et puis après, il a l'occasion, en tant que trombone, de jouer alors vraiment pour des pointures de la variété. Je vous en cite quelques-unes pour vous donner qui ? Gilbert Bécaud, Nicoletta, Claude François, Eddie Mitchell, Guy Marchand, Sacha Distel, Jerry Lewis. Et il va toujours avoir cette espèce de balancement entre jazz et variété.
Il n'est pas le seul parce que, en fait, pour moi, l'art du professionnel musicien, c'est de mettre bout à bout tout ce qu'il sait faire. Et si c'est un jazzman, de conserver le jazz comme jardin privilégié. C'est comme ça que le voient souvent les Américains, d'ailleurs, que nous avons pu rencontrer. Le jazz, c'est mon jardin, mais je suis musicien, je sais faire tout ce qu'on me demande de faire comme musicien. Et c'était le cas de Kamikaze.
C'est très pro.
Il est très pro. Cela dit, maintenant, c'est un monsieur d'un certain âge et vous le rencontrerez dans l'orchestre de Jacques Benhamou au Petit Journal où on peut aller faire le bœuf dans des conditions excellentes. Et Kamika, c'est un type toujours souriant, toujours gentil. Et il était aux côtés de Raymond Fonseca dans les années 60, quand nous débutions, dans ces fameux cours, ces fameuses séances qu'on appelait les activités dirigées de jazz. Et qui étaient, on était quand même une trentaine hein, à chaque fois et c'était passionnant, il faut bien dire. Tout à l'heure, tu disais que le Kamikaze du trombone était passé par l'orchestre de Maxime Sori. Eh bien, il a même enregistré la bande sonore du film Les Tricheurs. De nous extrayons ce morceau qui s'appelle
Minuit au quartier. Évidemment, il s'agit du quartier latin.
Oui, car le jazz qui était à Montmartre dans les périodes précédentes est passé par Saint-Germain-des-Prés et a atterri au quartier latin. Voilà, le disque gratte un peu et il faut vous dire qu'il n'a jamais été réédité et qu'il a beaucoup servi dans les surprise parties du bon vieux temps. Thank you.
On fait un petit saut dans le temps. Voilà quelqu'un qui a 10 ans de moins que le précédent. Effectivement, là, il y a une sorte de coupure générationnelle. C'est-à-dire que les musiciens dorénavant qui vont faire du jazz ne feront que du jazz, feront plus de variété. C'est l'exemple de Jack Cadieux, qui a joué très principalement avec les Jazzomaniacs.
Et oui, après ceux qui étaient nés avant la guerre, voici ceux qui sont nés pendant la guerre. Oui, les Jazzomaniacs, ça a été un orchestre absolument révélateur de toute une école quant à la manière d'aborder le jazz. Les gens qui jouent du jazz, là, sont des gens qui ont une grosse culture de jazz et du jazz antérieur. C'est-à-dire qu'ils connaissent... Ils connaissent leur histoire, ils savent d'où ils viennent. Et c'est vrai d'ailleurs qu'ils ne fréquenteront que très peu les studios, ces gens-là. Et qu'ils seront souvent des semi-pros, c'est-à-dire des qui ont également un métier non musical à côté. Les Jazzomaniacs, ils sévissaient principalement au caveau de la montagne Sainte-Geneviève. Et on allait souvent les écouter là-bas. C'est un orchestre qui a montré une certaine voix, puis dont les membres ont quand même eu une belle carrière après. Un beau parcours. Voici un morceau de cet orchestre où Monsieur Cadieux, Jack et sa moustache en croc peuvent se faire entendre au trombone à coulisses. Ça s'appelle Sweet Mumtaz.
Celui-là, qui est né juste un an après le précédent que vous venez d'entendre.
L'an de grâce 44, donc.
Il est absolument étonnant. C'est le surdoué en tout. Pour vous donner une idée, il est agrégé des lettres. Docteur d'État, spécialiste de l'écriture théâtrale. Il donne des conférences à la Sorbonne. Il est professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il va faire des petits séjours en Afrique et en Grèce. Et puis, pour corser le tout, il fait de l'aviation à hélice, du deltaplane, du parachutisme.
Oui, mais...
Oui. Mais alors, vous me direz, mais alors la musique là-dedans ? Ben, il commence la guitare à 15 ans. Et finalement, eh ben, il joue merveilleusement du trombone et de la trompette. Voilà.
Là, ça va être au trombone, parce qu'il s'est mis au cornet... Un peu plus tard, car nous avons eu l'idée, puisque nous avons des archives qui le permettent, de vous faire entendre un orchestre de débutants de l'époque. Vous voyez un petit peu comment les gens se préparaient à voyager dans le jazz après l'avoir beaucoup écouté, se retrouver ensemble. On avait tous une bonne vingtaine d'années, hein, sans plus. Et Gabriel Conessa était le tromboniste de cet orchestre. Il y avait un autre surdoué à la clarinette. Et nous avions enregistré lors d'une répétition... Un morceau qui s'appelle
Revolutionary Blues.
C'est un morceau du répertoire mesuro-bechet. Nous pratiquions beaucoup le répertoire mesuro-bechet.
Daniel Barda, il est de la même année que le précédent. Et lui, il va faire tout en classique. Formation classique de piano, formation classique de flûte, où il a des prix au Conservatoire de Versailles. Il a le prix de direction d'orchestre également. C'est vous dire que c'est un pur produit classique. Et pourtant, il va faire du jazz avec un plaisir fou.
Ah, il va être touché par la grâce. Il découvre le trombone et là, il est autodidacte. Là, il a vraiment appris tout seul. Il a une oreille terrible. Il a assimilé le jazz en un temps très court. Et Daniel Barda commence à se faire connaître car il débarque dans un orchestre qui est sans doute le plus célèbre des orchestres français, qui s'appelle...
Eh bien, il s'agit des haricots rouges, nom qui fait allusion naturellement au plat préféré de la Nouvelle-Orléans, des haricots rouges bien pimentés.
Et c'est amusant parce que cet orchestre, au départ, il s'appelait le Red Beans Jazz Band. Et c'est un agent artistique qui leur a dit « Non, faut faire français. Appelez-vous les haricots rouges. » Et le nom, haricots rouges, est resté, à tel point que cet orchestre, qui est naturellement changé de personnel, mais il y a encore des fondateurs, un ou deux, dans l'orchestre, eh bien, il a une carrière absolument planétaire, et depuis très longtemps, parce que les haricots rouges, c'est une institution qui dure depuis presque 50 ans. Daniel Barda en a donc été le trombone inamovible pendant pas mal de temps.
Il a même écrit, ce garçon-là, les origines du jazz dans la musique classique, qui est quand même quelque chose qui...
Ah, c'est un sujet très peu traité, je dois dire, et ça l'est très bien tiré. Il a des idées là-dessus nettes et cohérentes. Là, nous allons surprendre les haricots rouges au tout début de leur carrière, et bien longtemps après Grégor et ses Grégoriens, ils vont aussi nous jouer...
Tiger Rag.
On sent quand même là-dedans l'enthousiasme des néophytes.
Oui, c'est même un peu frénétique.
Hein. Ah oui, ça, c'est très frénétique. Nous passerons naturellement un jour d'autres enregistrements de Daniel Barda, où il se montre quand même musicien plus accompli. Là, nous sommes encore dans le rustique des débuts. Et maintenant, il y a ceux qui sont nés après la guerre. Et là, il n'y a aucune hésitation possible, le trombone actuel sur le terrain du jazz, s'appelle Patrick Bagville.
Alors lui, il n'était pas particulièrement destiné à la musique. Hein. Au départ, on le retrouve jeune garçon dans une imprimerie dont il semble vouloir faire son métier. Et puis, il y a un feat quand même, quelque part, avec la musique.
Et c'est là, comme beaucoup de monde, qu'il se dit qu'il va aller y mettre les oreilles, qu'il prend un instrument. Pourquoi le trombone, je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Et puis, après, ça se passe de fil en aiguille, tu sais, tu vas dans un orchestre, puis tu joues devant des gens, pour des gens, tu croises d'autres musiciens, tu vas dans un autre orchestre, et puis après, ça va tout seul. Et Bagville, il est monté comme ça, au sommet de ce qu'on peut faire actuellement au trombone jazz. En France, c'est lui le plus réputé, aucun doute.
Mais c'est un autodidacte.
Ah oui, ça, absolument. Naturellement, il s'est perfectionné après, il a quand même pas mal travaillé. Alors, il joue du trombone, mais également, il chante. Et c'est le membre attitré d'un orchestre qui a changé de nom en même temps que de répertoire à chaque fois. À chaque fois que cet orchestre changeait de répertoire, il changeait de nom. Ça a commencé par être les Globetrotters, après c'est venu les Gigolos, puis maintenant c'est Pink Turtle. Mais en fait, là, nous allons trouver Patrick Bagville dans un formidable grand orchestre, un big band de musiciens de jazz parisiens.
Qui s'appelle le Paris Swing Orchestra.
Et dont la direction musicale est assurée par Marc Richard et Jean-Pierre Dumontier. Et là, au cours d'un concert, parce que c'est les tout débuts de ce big band, enregistré dans un concert, comme ça, pof, sur le vif, Patrick Bagville nous a gratifié d'un morceau de James P. Johnson qui s'appelle
If I Could Be With You.
Où vraiment il est superbe.
About you night and day. I'd be happy if I had you by my side. I'd be happy if I knew you as my bride. If I could be with you 1 hour a night, if I was free to do the things I might. I want you to know I wouldn't let you go till I told you, honey, why I love you so. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you all night long. I'm telling you true, I'd be anything but blue. Oh, yes, if I could be with you for just 1 hour. If I could be with you.
Thank you.
If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you all night long. I'm telling you true, I'd be anything but blue. Oh yes, if I could be with you for just 1 hour, if I could be with you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.